Au commencement était la parole. Toutes choses ont été faites par elle. En elle était la vie, la lumière des hommes. En Christ, cette parole a habité parmi nous, pleine de tendresse et de fidélité. À tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui ont foi en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En Christ, nous recevons la grâce et la vérité, la tendresse de Dieu et sa fidélité. Nous nous présentons ensemble devant Dieu avec le premier chant qui est dans le petit livret qui est au début du psautier français. Bénissons Dieu, le seul Seigneur, nous qu'il choisit pour serviteurs. Ô de quel amour sont aimées tes demeures, éternel, Dieu de l'univers. Mon âme soupire après la présence de l'Éternel. Mon cœur et ma vie tout entière sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Et moi, j'espère ta présence, ô Éternel, Dieu de l'univers, mon Dieu et mon roi. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter et te chanter encore. Heureux ceux dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source. Ils vont de hauteur en hauteur, ils se présentent devant Dieu et ils sont élevés par sa présence. C'est ce psaume 84 dont je viens de vous lire un extrait que je vous propose de chanter maintenant. « Dans ta maison, je suis heureux, elle est le désir de mes yeux. » Psaume 84, les strophes 1, 2 et 4. Vous pouvez prendre place. Voici ce que Dieu nous propose de vivre selon le témoignage de Moïse. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image pour te prosterner devant elle et pour les servir, car je suis l'Éternel ton Dieu. Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne tromperas pas ceux qui t'aiment. Tu ne voleras pas. Tu ne diras pas de mensonge contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Et voici comment Jésus-Christ a résumé toute la loi dans cette seule parole. Écoute l'Éternel ton Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Et nous pouvons bien entendu reconnaître devant Dieu que nous sommes loin de cet idéal de l'amour parfait, et nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. C'est ce que je vous propose de faire avec cette prière de David. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché et ma faute est toujours devant moi. Mais tu veux au fond de moi la fidélité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête et ils danseront les eaux broyées. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, mon Dieu. Renouvelle, raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint, mais rends-moi la joie d'être sauvé. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui directement au plus profond de même la certitude de leur pardon et la grâce d'une vie renouvelée. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque ait foi par lui ne meure pas, mais qu'il ait dès maintenant la vie éternelle. Le Fils de l'homme est ainsi venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Et je vous propose de vous unir par la foi à cette simple déclaration de croyance chrétienne. Je crois en Dieu, il est la source, le début de toute bonne chose. Au-delà de la pensée est pourtant si proche que l'homme en a l'intuition et peut recevoir de lui une dynamique de réconciliation. Réconciliation avec lui, notre Dieu. Réconciliation avec les autres, nos frères et sœurs, et réconciliation avec nous-mêmes dans une paix vivante. En Christ, nous avons connu ce Dieu, source de vie. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avions un peu d'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, et ce corps est ressuscité. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Amen. Gloire à Dieu, dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Le récit de l'échelle de Jacob, c'est un des plus grands textes de l'humanité, avec peut-être Ulysse et son cheval de Troie, ou Arthur qui parvient à dégager l'épée d'Excalibur du rocher. Ces textes sont parmi les plus connus, bien sûr, de l'humanité, mais ce texte de la Bible est, à mon avis, médaille d'or des textes les plus intéressants, ou au moins médaille d'or ex aequo avec quelques autres textes de la Bible. Pourquoi ? C'est que cette histoire se prête à une multitude de lectures différentes. Cette histoire est passionnante pour ses options théologiques. Elle présente une conception de Dieu qui est originale et qui n'est pas si évidente que ça, même dans la Bible. Cette histoire est intéressante du point de vue spirituel, évoquant une expérience mystique, une rencontre avec Dieu que nous pouvons faire. Cette histoire est utile au niveau existentiel, quand on est au fond du gouffre, comme Jacob, rejeté sans rien en exil pour pouvoir se relever et avancer. Cette histoire est intéressante au niveau moral, quand nous sommes en dispute, menacée de mort avec notre frère, pour arriver à avancer vers la paix et se réconcilier. Cette histoire est intéressante sur la place de la religion dans notre existence, dans notre cheminement. En somme, cette histoire est une réflexion qui rassemble en quelques lignes une vision globale des grandes questions qui se posent à l'humanité. Les questions sont ainsi relayées, liées, ces questions de notre nature humaine, de la morale, de la religion, de la justice et de la mystique. Alors c'est au chapitre 27-28 du livre de la Genèse que je vais ouvrir la Bible pour lire ce passage, sautant juste quelques versets au mieux pour que ce soit un peu moins long, parce que, bien sûr, vous avez fait un effort pour venir comme ça, en plein milieu du mois d'août, quelques-uns pour se rassembler. Alors si je vous éprouve trop par une lecture interminable, vous seriez punis injustement. Ésaü conçut de la haine pour Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur: « Les jours du deuil de mon père approchent et je tuerai alors mon frère Jacob. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, et elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet. Elle lui dit, « Voici que ton frère Ésaü veut tirer vengeance de toi en te tuant maintenant, mon fils. Écoute ma voix. Lève-toi, va te réfugier chez mon frère Laban à Haran. Tu resteras auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère soit calmée. Et puis quand la colère de ton frère se sera détournée de toi et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait, alors je te ferai revenir. Pourquoi, dit Rebecca, pourquoi serais-je privé de vous deux le même jour ? Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre en conséquence. Tu n'épouseras pas une Cananéenne, lève-toi, va à Padan Aram, chez le père de ta mère, et prends là-bas une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une foule de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme un immigrant et que Dieu a donné à Abraham. » Jacob se leva et partit de Beersheba et s'en alla vers Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient sur l'échelle. Or l'Éternel se tenait au-dessus de lui et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. » Ta descendance sera si nombreuse que la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, du nord au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli la parole que je t'ai donnée. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement l'Éternel est présent dans ce lieu et moi je ne le savais pas. » Il eut de la crainte et il dit que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête et il la dressa en stèle. Il versa de l'huile sur son sommet. Et il donna le nom de Bethel à cet endroit, alors que la ville avait d'abord porté le nom de Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi, et s'il me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger, et s'il me donne des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée en stèle, elle sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Et Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter le psaume 33, donc dans le psautier français, les strophes 1, 2 et 5 du psaume 33, « Réjouis-toi, peuple fidèle ». Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi de peur que par lassitude je ne veuille plus te chercher, mais fais que toujours je cherche ardemment ta face. Ô toi, donne-moi la force de te chercher, toi qui m'as fait te trouver et qui m'as donné l'espoir de te trouver plus encore. Devant toi est ma force et ma faiblesse, garde ma force, guéris ma faiblesse. Devant toi est ma science et mon ignorance. Là où tu m'as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer. Là où tu m'as fermé, ouvre-moi quand je viens frapper. Que ce soit de toi que je me souvienne, toi que je comprenne, toi que j'aime. Augmente en moi ces dons de la force, de l'intelligence et de la foi jusqu'à ce que tu m'aies réformé tout entier. Cette histoire propose donc une réflexion sur les questions de Dieu, de notre nature humaine, de la morale, de la religion, de la justice et de la mystique. Mais peut-être que le plus intéressant dans ce texte est justement le fait même qu'il articule toutes ces dimensions dans une vision de l'humain. Ce texte, en fait, est construit explicitement pour cela, littéralement pour ça. En effet, le personnage de Jacob est le héros humain de cette histoire, mais il est également bien plus que ça. Ce qui est mis en place par ce récit en fait plus qu'une personne historique, comme par exemple le ferait une biographie de Martin Luther King, par exemple, un récit de sa vie qui nous permettrait de nous intéresser à ce qui lui est arrivé, mais aussi à sa pensée, à sa foi, à ses actes. Ici, Jacob a un autre statut. Et il a bien d'autres statuts, en fait. La Genèse nous dit, en présentant le personnage de Jacob un peu plus haut dans la Genèse, que c'est un homme parfait, alors que son jumeau, Ésaü, est poilu comme un singe et rouge comme la poussière du sol. Le personnage de Jacob représente donc, au sens littéral, ce qui est parfait en nous, dans la nature humaine, en chacun de nous. Il représente notre dimension divine, notre âme, diraient certains, alors que son jumeau Ésaü est notre image, est l'image de notre nature physique, animale, pétrie de la poussière du sol. Et c'est ainsi que commence le passage que je vous ai lu, avec la menace de l'élimination de notre dimension spirituelle par la vie matérielle. Élimination qui est un danger évidemment bien réel, très concret pour nous évidemment, et cela, nous ne sommes pas dans la fiction, bien entendu. Jésus souligne également cette difficulté dans la parabole du semeur, où la bonne dynamique du royaume de Dieu est si souvent étouffée par les soucis du monde, par le manque de profondeur spirituelle, ou bien picorée par ce qui passe. L'ensemble de l'histoire des fils d'Isaac et de Rebecca est un récit d'apprentissage, ou plutôt un récit d'évolution, de création, de genèse de Jacob, qui permet finalement la réconciliation d'Ésaü et de Jacob. Ce récit, comme d'ailleurs l'évangile du Christ, est un récit de genèse, de création de l'humain par la grâce et par la parole de Dieu. L'histoire de Jacob et d'Ésaü nous invite à une réconciliation de notre âme et de notre corps. Mais l'épisode de l'échelle de Jacob nous invite en réalité à plus que cela encore. Car nous voyons ici que Jacob, qui est censé représenter notre dimension spirituelle si nous étions dans ce dualisme âme-corps, ce Jacob à une vraie considération pour ce qui est de l'ordre de la vie concrète, de la vie en ce monde, pour ce qu'il mangera et pour ce dont il sera vécu. Et ces projets sont des projets de vie et de paix en ce monde, pas simplement des projets d'illumination mystique. On voit qu'il n'est donc pas dans une pure dimension spirituelle, verticale, mais qu'il articule cette dimension avec une pensée historique, qu'il articule cette pensée avec une, voilà, en se sentant héritier d'une histoire qui le précède, et qu'il pense aussi à prolonger cette histoire d'une façon créatrice, avec une fécondité qui est universelle finalement. Il est attaché à son peuple et à la terre, mais il a une vision plus large qui s'étend à toutes les familles de la terre. Par conséquent, la trame générale de l'histoire de Jacob et d'Ésaü s'inscrit, oui, en partie dans une pensée dualiste de la nature humaine, mais cette histoire enrichit ce modèle, la nuance et complexifie ce modèle. Dans un sens, oui, nous sentons bien cette tension en nous entre la vie de l'esprit et la vie du monde, entre un idéal et puis des difficultés à vivre concrètement, pragmatiquement dans ce monde. Et la trame générale de cette histoire nous appelle à résoudre cette dualité par la primauté du spirituel qui peut et qui doit effectivement souvent ruser avec notre corps comme Jacob trompe Ésaü. Souvent notre dimension spirituelle, notre idéal, notre foi doit esquiver parfois, comme dans le début de ce récit, doit se protéger, doit chercher de l'aide, du soutien auprès de parents éloignés, doit prendre le temps d'évoluer, de se développer, doit prendre des temps de retraite pour finalement être assez fort et pour créer la paix avec notre dimension terrestre, terrienne, avec notre existence concrète, avec la vie en ce monde, avec toutes les dimensions de notre existence, avec les autres aussi, avec la terre entière, pour qu'elle soit au bénéfice de cette bénédiction. Et donc oui, il y a là une bonne piste pour vivre, mettre le spirituel aux commandes, un peu au-dessus dans notre existence, une réponse intelligente et vraie à méditer chaque jour, à travailler toute l'année, bien sûr, dans l'espérance et dans la foi, dans l'étude, dans la prière, dans le dialogue avec les autres, bien sûr. Mais il y a également un enrichissement de cette notion un peu trop schématique qui coupe l'homme en une âme et en un corps. Le Jacob de notre passage est plus complexe que cela. Et cet enrichissement, je crois, est bien précieux car il nous invite à une meilleure estime de notre corps, de notre vie, des plaisirs de ce monde aussi, mais aussi à une compréhension plus fine de la manière dont nous pouvons avancer en ce monde, de la nécessaire solidarité avec les autres et pour mieux saisir ce que Dieu espère et ce que Dieu nous offre. Alors on ne peut être plus bas que Jacob à ce moment-là de l'histoire. On ne peut être plus dénué de tout que Jacob dans ces ténèbres-là. Et pourtant, nous dit le texte, il est au pied d'une échelle qui le relie au ciel. Cette échelle, apparemment, est sans échelon. Et le texte nous dit que Dieu est à la fois au sommet de l'échelle et en même temps qu'il est avec lui, Jacob, qui est à terre. De sorte que Jacob lui-même, en fait, est cette échelle. Et Dieu n'est pas au sommet d'une échelle qu'il faudrait gravir par notre sagesse ou par notre spiritualité, dans des sortes de degrés finalement, mais Dieu, littéralement, est à la tête de l'échelle. Et cela peut se traduire également en hébreu à l'origine de l'échelle, à la genèse de l'échelle. Et donc Dieu n'est pas loin au-dessus de Jacob, à l'autre bout d'une haute échelle avec des médiateurs qui viendraient faire le lien, mais Dieu est à l'origine de cette échelle sans barreaux qu'est Jacob, dans cette échelle sans barreaux qu'est l'homme finalement, tendue entre le ciel et la terre. Et le dénuement de Jacob, sa faiblesse, ainsi que le fait qu'il n'a rien fait pour appeler Dieu à l'aide, rien fait pour étudier et pour prier, qu'il n'ait rien demandé à Dieu ni cherché, tout cela montre que tout homme est capable de Dieu par nature. Tout homme, même totalement abattu, comme l'est ici David, n'est jamais si bas. Bien entendu, c'est utile, à mon avis, de le rappeler encore et toujours. Tout homme n'est jamais si bas que Dieu ne puisse, ne veuille le rejoindre. Et être, littéralement, au-dessus de lui, juste au-dessus, tout contre lui, collé à lui, pour lui, avec lui. De sorte que Dieu fait de nous cette échelle, ce conducteur entre ces deux pôles que sont le ciel et la terre, l'idéal et les actes. Et c'est un Dieu, c'est être debout, voilà, réconcilié, c'est l'humain, c'est chaque être humain tel que Dieu le veut. Et donc nous avons là une vision de l'être humain, nous avons aussi une vision de l'humanité, pas seulement de l'Église. On a souvent vu dans Jacob une image de l'Église, mais c'est plus que ça, bien entendu. C'est explicitement une vision de toutes les familles de la terre, dans l'espérance, telle que Dieu l'espère, finalement. Et ces messagers qui montent et qui descendent, ce ne sont pas des légions d'anges avec des plumes qui monteraient sur une échelle qui nous relierait avec Dieu, un Dieu lointain. Ces messagers, ils représentent ainsi la circulation de la grâce à l'intérieur de nous-mêmes. C'est Dieu lui-même travaillant par sa parole à unifier, à mettre en lien, en correspondance, toutes les différentes dimensions de notre être, faisant circuler des vrais échanges en nous-mêmes et avec lui, permettant l'expression des rêves et des besoins des différentes dimensions de notre être, mettant en lien le passé et nos projets, nos attachements et nos craintes, nos doutes. Et c'est alors que nous ne sommes plus seulement une âme, une vie spirituelle qui aurait comme été versée dans un corps, dans un vase d'argile, comme le dit l'apôtre Paul, mais que nous sommes une échelle dressée, puis un espace de dialogue multiple entre Dieu et nous, notre tête, notre cœur, nos jambes et nos mains, notre passé, nos projets, notre avenir, nos espérances et nos peurs sont mises comme en relation. Et c'est alors que nous avons un peu avancé, je crois, dans ce travail et que nous pouvons accepter d'être également et Jacob et Ésaü. Et de cesser de considérer la vie en ce monde comme une charge, cesser de vouloir sortir de cette tension entre la terre et le ciel en éliminant un des deux pôles, en étant simplement matérialiste, athée, vivant comme un oiseau du ciel, ou alors en étant un pur esprit et se désintéressant du monde. Car en éliminant un des deux pôles, nous faisons exploser l'échelle et nous ne perdons pas qu'un des deux, nous perdons les deux comme le craint Rebecca, invitant à Jacob de prendre ce temps de retraite, ce pèlerinage, en expliquant « Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour ?» Rebecca est prophète, car perdre un des deux pôles, c'est perdre l'échelle et c'est perdre les deux. Et donc il y a là, dans cette anthropologie, cette vision de l'homme qui est proposée ici par la Genèse, il y a là une différence radicale et à mon avis déjà polémique à l'époque de la rédaction de ce texte, avec certaines pensées orientales qui visent à résoudre cette tension entre le spirituel et l'animal en nous, en tentant de réduire, d'éliminer au maximum le désir humain, en essayant d'éliminer, de réduire le sentiment d'avoir soi-même, en tant que personne individuelle, une importance essentielle. Donc oui, je crois que dans cette anthropologie, il y a là vraiment quelque chose qui est incompatible avec le bouddhisme, par exemple, même si par d'autres côtés, il y a bien sûr quelque chose de formidablement commun avec d'autres pensées spirituelles. Et donc la Bible, oui, conseille de mettre le spirituel au-dessus, Dieu au-dessus, mais collé. Dieu est à l'origine, le spirituel est comme une source de notre échelle, mais en tension féconde, assumée et pacifiée avec nos pieds qui sont sur terre. Cette vision de l'homme est ici exprimée dans une série d'expressions un peu à la façon des « moi président » de Hollande dans son fameux discours, Dieu dit à Jacob que Dieu donne à cet homme que nous sommes un « avec toi », un « pour toi », un « grâce à toi », un « sur toi ». Et cette sorte de petite rengaine avec les « toi », « pour toi », « grâce à toi », « avec toi », ça nous met debout, un peu comme une échelle, mais une échelle qui marcherait sur ses pieds, et ça nous met donc en marche et en ordre de marche. Dieu éternel est d'abord au-dessus de toi, et cela c'est plus expérimenté qu'entendu par Jacob, expérimenté comme une parole qui nous est adressée et comme un droit à la parole. Le « à toi », il nous donne cette terre où nous sommes, nous disant que nous sommes chez nous sur terre, que c'est notre place dans ce monde, dans ce corps, dans cette vie. Et entendant ces deux premières paroles, le « au-dessus de toi » et le « à toi », déjà nous prenons conscience d'être une échelle vivante dans ce beau dialogue. Vient ensuite le « en toi », le « par toi » qui est une promesse que notre être sera une bénédiction finalement, une bénédiction tous azimuts pour toutes sortes de personnes, de pays, pour les générations présentes et les générations futures, pour toutes les dimensions de notre être. Et là aussi, il y a une dimension particulière de la vision biblique de l'être humain qui a une valeur en soi, bien sûr, mais qui, par grâce, est appelée à vivre comme une authentique source de bénédiction dans ce monde, concrètement, pour les autres, à la surface de ce sol. Et l'ampleur même de l'immense foule qui nous est confiée comme la poussière du sol, aussi nombreuse que la poussière du sol. Cette immense foule, cette ampleur, nous donne une liberté devant des myriades d'occasions à saisir chaque jour. Vient ensuite le « je serai avec toi », qui est une extraordinaire promesse de pardon de Dieu, de liberté qui nous est donnée d'aller en confiance, d'aller comme nous le sentons, de se tromper, de tomber, d'être pardonné, mais d'être aussi relevé, d'être gardé. Une promesse d'être peut-être blessé, d'être à terre, mais d'être soigné, guéri et ressuscité. C'est l'extraordinaire promesse de la patience de Dieu, promesse qu'en définitive, au bout de notre route, nous rejoindrons finalement le projet de Dieu, voilà, nous rejoindrons notre chez-nous, la terre de la bénédiction. Et là aussi, il y a une différence, une prise de position de la Bible contre d'autres pensées très fréquentes, un peu partout, qui sont très centrées sur la notion de jugement de Dieu sur l'homme. Celui qui est mauvais, celui qui est mal croyant, mal pratiquant, étant impitoyablement recalé. Ce que nous dit ce texte, c'est une grâce radicale de Dieu. Et cela rompt avec les conceptions de l'existence placées sous la perspective d'un jugement, comme le bouddhisme, encore une fois, qui est très centré sur cette idée de jugement, avec ses réincarnations. Donc on redouble, tant qu'on n'a pas finalement la moyenne à l'examen, un peu comme d'éternels bacheliers, finalement, jusqu'à ce qu'on puisse enfin accéder à la vie spirituelle ultime par l'illumination. Mais aussi le jugement, comme dans l'islam, finalement, et bizarrement aussi même dans le judaïsme. Comment en sont-ils arrivés là, beaucoup? Et encore plus bizarrement, avec certaines formes de christianisme, où la dimension de jugement de Dieu est extrêmement présente. Ici, au contraire, Dieu dit que, certainement, sa promesse de nous accompagner personnellement jusqu'à la vie s'accomplira sans aucun doute. C'est une question de longueur du chemin, c'est une question de pénibilité de la route, mais Dieu sera et restera au-dessus de nous, de chacun de nous. Il restera avec nous et pour nous, il continuera à nous garder notre place, il continuera à compter sur nous, de sorte que nous serons bénédiction pour d'autres de ses enfants. Jacob est ainsi le troisième et dernier patriarche, et en lui, l'alliance se noue dans une vision globale de l'humain. Ce texte cherche à nous faire sentir que dans l'homme se nouent et doivent se réconcilier et même s'unifier le ciel et la terre, l'âme et le corps, la théologie et la justice, l'émotion religieuse et l'action, la religion et les soins de notre corps, le soin du corps de nos frères et sœurs. Tout est lié, tout est tellement lié en nous que l'on ne peut pas dire qu'une des dimensions serait secondaire. Comme notre corps ne peut pas être en bonne santé si notre morale ne va pas, comme il n'est pas possible de faire avancer la paix en ce monde sans travailler aussi sur la question de la justice, évidemment. Comme il serait vain d'espérer d'avancer sur les questions sociales sans avancer sur les questions spirituelles et philosophiques, non seulement au niveau de la société en général, mais en aidant chaque personne, même les plus humbles, même les plus élevés, à travailler ces questions. Comme Jacob, il est bon de reprendre ce qui nous a précédés, ce qui nous entoure, dans un bon et saint travail de fidélité, de filtre, de tri, de digestion. Comme Jacob reprend l'alliance de bénédiction et de foi de son grand-père et père spirituel Abraham. Comme Jacob reprend l'idée de cheminement et de travail dans la confiance de Dieu, qu'il hérite de son père Isaac, sans mépriser Isaac pour ses aveuglements et sa faiblesse. Mais Jacob, il ajoute une liberté et un enthousiasme, il ajoute une intelligence, un esprit prophétique qui lui viennent de Rebecca, sa mère. Dieu a bien fait de donner le « je serai avec toi », le « je serai pour toi » dans tes hauts et dans tes bas. Car nous tous, évidemment, comme Jacob, nous n'en sommes qu'au début de notre cheminement. Il prend acte, oui, que Dieu, l'Éternel, a été présent. Il le comprend, il le sent, car il est maintenant debout, il voit un peu plus clair. Il a une espérance qu'il n'avait pas inconnue, et donc après coup, il peut dire oui. Il y a eu là quelque chose de plus, quelque chose qui vient d'ailleurs, quelque chose qui est surnaturel. Et pourtant, il est toujours sur le bord du gouffre. Il n'est encore relevé que par une étincelle de foi et d'espérance, par une seule promesse d'être accompagné par un amour fidèle. Et comme pour lui, la vie nous fait peur, bien sûr. En tout cas, quand la vie est vraiment vivante, c'est-à-dire quand nous assumons le fait d'être une échelle en tension entre le ciel et la terre. Et nous savons combien une échelle peut se casser la figure, peut glisser. Alors oui, nous sommes sur cette échelle qui est tendue comme par un bruissement de paroles et de sens. En plus, une échelle qui doit marcher sur ses pieds, en plus. Et non, une échelle bien sagement posée à terre et pourrissant tranquillement dans l'herbe humide. Alors, est-ce que Dieu nous nourrira ? Il sera notre Dieu. Est-ce que Dieu nous vêtira de son pardon et nous protégera des difficultés ? Il sera notre Dieu. Est-ce que notre libre cheminement nous permettra d'être un petit peu bénédiction et nous mènera chez nous, dans la vraie vie ? Oui, l'Éternel est et il sera notre Dieu pour l'éternité. Amen. Oui, comme on dit parfois en rigolant, Dieu peut remercier Jean-Sébastien Bach, car la musique de Bach est une preuve de l'existence de Dieu. Et je vous propose de chanter au cantique 297 dans notre petit recueil Louanges et prières, au Dieu des grâces éternelles, les quatre strophes de ce beau cantique. 297. Vous pouvez prendre place. Alors, comme annonce pour ce dimanche, eh bien, il y a les mercredis bibliques de l'été, donc comme chaque mercredi de juillet et août, à 12h30 en face, aux 4 rue de l'Oratoire, au rez-de-chaussée, nous avons un temps sympathique, fort sympathique, de lecture biblique. Alors, pour le 15 août, pour nous mettre en communion avec nos frères et sœurs catholiques, je vous propose d'aller réfléchir, chercher les personnages de Marie et de Marie-Madeleine dans les évangiles. Alors c'est de 12h30 à 13h30, avec un ayant mangé, soit son sandwich, soit chez soi, et avec un café donc, qui vous est proposé au début. Alors dimanche prochain, ici, nous aurons donc le culte, comme tous les dimanches de l'année à 10h30, avec, je crois, un service de Sainte-Seine. Sinon, eh bien, nous avons déjà la rentrée qui est en perspective prochaine, puisque au mois de septembre, nous recommencerons sur les chapeaux de roue et que nous aurons en particulier les journées du patrimoine, qui est toujours un événement assez important pour l'oratoire, vu le nombre de personnes qui passent. Et donc, il y a plein de choses à mettre en ordre en vue de ces journées du patrimoine dans l'oratoire. Il y a aussi des choses à préparer, un bout d'exposition, du fléchage, des choses, voilà. Donc, si vous avez un peu de temps ces jours-ci, mais aussi si vous avez du temps pendant ces week-ends des journées du patrimoine, le samedi et dimanche, je crois que c'est le 15-16 septembre ou quelque chose comme ça, eh bien, vous pouvez vous adresser à l'accueil ou bien aux responsables qui sont donc dans le banc. Ça sera, ou avec, à moi-même, ça sera avec joie. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Et effectivement, comme tous les deuxièmes dimanches du mois, eh bien, cette offrande est destinée à venir en aide aux plus démunis que nous voulons aider, en particulier donc par le service de l'entraide. Et je vous invite à vous unir dans la prière en suivant du cœur ce psaume. Ô Dieu, donne à tes enfants un cœur de chair pour qu'ils agissent avec justice et qu'ils fassent droit aux malheureux. Lieu de culte, portez au peuple la paix. Simple priant, portez-lui la justice. Que tes enfants, ô Dieu, fassent droit aux malheureux de leur peuple, qu'ils sauvent les pauvres gens, qu'ils chassent le malheur. En ces jours-là fleurira la justice, il y aura une grande paix jusqu'à la fin des siècles. Dieu délivrera ainsi le pauvre qui appelle, le malheureux sans secours, car ils auront souci du faible et du pauvre dont ils sauvent la vie. Ils les rachèteront à l'oppression, à la guerre, à la violence. Leur sang est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Que la terre jusqu'au sommet des montagnes soit comme un champ de blé, et que les épis ondulent comme la forêt du Liban, que la ville devienne florissante comme l'herbe sur la terre, que le nom de ton Messie dure à toujours, sous le soleil que subsiste son nom. Qu'en lui soient bénies toutes les familles de la terre et que tous les pays se réjouissent de la bonne nouvelle. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Béni soit notre Père qui es aux cieux. Oui, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons chacune, chacun, la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et qu'il te donne la paix. Oui, demeure par ta grâce avec chacun d'entre nous, ô Dieu Sauveur.